voici que nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été annoncé par les prophètes au sujet du Fils de l'homme sera accompli. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En effet, il sera livré aux païens, il sera moqué, il sera flagellé et conspué, et après qu'il aura été flagellé, on le mettra à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. Pour bien comprendre ces paroles de notre Sauveur, il faut se remettre dans le contexte exact dans lequel elles ont été proférées. Il s'agit de la fin de la vie publique de notre Seigneur, la dernière année, au moment où il va monter vers Jérusalem avec ses apôtres, et au moment où cette montée va entraîner les événements de sa passion. Notre Seigneur veut donc raffermir la foi de ses disciples. Il va leur faire une annonce en leur rappelant les prophètes qu'ils ne vont pas comprendre. Et puisqu'ils ne la comprennent pas, du moins pas tout de suite, pour les raffermir mieux, il va guérir un aveugle. Il va lui rendre la vue. De ces paroles de notre Seigneur, il ressort que tout ce qui va se passer pendant la Passion a été annoncé de façon précise du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Messie, c'est-à-dire de notre Seigneur lui-même, par les prophètes. Eh bien, voyons l'analyse de notre Seigneur. Il dit tout ce que les prophètes ont annoncé du Fils de l'homme va être réalisé maintenant que nous montons à Jérusalem. Donc les prophètes ont annoncé tout ce que vous ne savez pas encore, vous mes apôtres, mais qui est déjà annoncé parce que Dieu, lui, le sait d'avance et le voit d'avance. En effet, il sera livré aux nations. Et voyez, il y a un lien entre l'annonce de notre Seigneur, tout a été annoncé, et la précision de ce qu'il dit après. En effet, il sera livré aux nations, etc. C'est-à-dire que ce que je vous annonce là, eh bien les prophètes l'ont déjà dit. Tout cela, ils l'ont dit, et qu'est-ce qui va se passer en effet? Eh bien, le Fils de l'homme va être livré aux nations. Que le Messie allait être livré aux nations n'était pas annoncé d'une façon explicite dans les prophètes. Au contraire, dans les prophètes, on trouve beaucoup de prophéties qui annoncent que les nations, par exemple, les païens, viendront lui apporter de l'or et de l'encens et de la myrrhe, et on l'a vu réaliser au jour de l'Épiphanie. Qu'il dominera sur toutes les nations d'un fleuve jusqu'à la mer et jusqu'aux extrémités de la terre. Que toutes les nations le serviront et lui rendront hommage. Et donc, il n'est pas directement dit qu'il va être livré aux nations comme un prisonnier. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui le laissaient entendre, et principalement le fait de la prédiction du genre de mort qu'il allait avoir, à savoir la crucifixion. En effet, parmi les Juifs, on ne crucifiait pas. Il y avait d'autres moyens de supplice, mais la crucifixion n'était pas pratiquée chez eux. Elle était pratiquée chez les païens, mais pas chez eux. Et par le fait même de qu'il y ait de très nombreuses figures qui annoncent la crucifixion de notre Seigneur, cela donnait à entendre que ce n'est pas les Juifs qui mettraient à mort le Messie, mais que ce seraient les nations et donc qui seraient livrés aux nations. Et il sera moqué. Il sera moqué. Remarquez que pour nous, toutes ces annonces ne sont pas difficiles à croire, puisque nous les savons réaliser. Et il sera moqué, en effet, par les païens, au moment où on lui tressera une couronne d'épines, et on se mettra à genoux devant lui en disant « Allez, roi, fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé !» Et les soldats le tourneront en dérision. Mais il sera aussi moqué par les gens de sa nation, par les Juifs, au pied de la croix. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Eh bien, qu'il vienne donc l'aider, qu'il descende de sa croix, et alors nous croirons en lui. Et toutes ces paroles, eh bien, elles étaient prédites dans les psaumes. Dans les psaumes, il était dit, notamment dans le psaume 21, que notre Seigneur serait crucifié, on percera mes mains et mes pieds. On voit tous les détails dans ce psaume de la crucifixion, y compris la soif, y compris qu'il sera entouré de gens hostiles et les paroles mêmes des Juifs qu'il est le fils de Dieu, eh bien, que Dieu lui vienne en aide, etc., elles sont rappelées dans ce psaume, également au chapitre 2 du livre de la Sagesse et en d'autres endroits. Donc, il était prédit d'une façon précise que le Messie serait moqué, serait outragé. Il sera flagellé. Cela non plus n'était pas directement dit dans les prophètes, bien qu'il y a plusieurs passages qui disent qu'il sera frappé. Mais par exemple, dans Isaïe, on lit « Du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, ce n'était que coups et blessures, que meurtrissures. Je le vis et il était semblable à un lépreux. » Le lépreux, la chair se décompose, se forme en lamelles, et puis peu à peu elle tombe. Eh bien, quand quelqu'un est flagellé, les fouets lui creusent d'abord des sillons dans la peau, puis déchirent les chairs qui pendent d'abord, et puis qui finissent par tomber également. Et donc on voit l'atroce supplice de la flagellation représenté ainsi dans Isaïe. Il sera conspué, c'est-à-dire on lui crachera dessus, on lui crachera au visage. Et effectivement, on voit que déjà dans le Sanhédrin, on lui crache dessus quand il dit qu'il est vraiment le Fils de Dieu. On lui crache dessus également au moment où les soldats lui font la couronne d'épines. Et il est dit dans un psaume, je ne détournerai pas la face conspuentibus in me de ceux qui me cracheront dessus. Donc cela a été aussi annoncé avec précision. Et après qu'il sera flagellé, car voyez, notre Seigneur, tout en citant les prophètes, et je vous montre que les prophètes, d'une manière au moins implicite, quand ce n'est pas d'une manière explicite, avaient annoncé tous les détails de la passion. Il y a même beaucoup plus de détails dans l'Ancien Testament sur la Passion que dans le Nouveau. Par exemple, que les soldats, au moment du couronnement d'épines, lui arracheront la barbe. C'est dit dans Isaïe, qu'ils lui donneront des coups avec le pommeau de leur lance. C'est dit dans Job. Et quantité d'autres choses qui ne sont pas précisées par les évangélistes et qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais en même temps, notre Seigneur, qui est le roi des prophètes, donne des détails très précis et que nous savons tout à fait s'être réalisé exactement. Eh bien, ces prédictions de notre Seigneur disent également, après qu'il sera flagellé, il sera mis à mort. On retrouve exactement le même terme au petit détour dans le prophète Daniel. Il sera mis à mort. Il ne sera pas seulement tué, comme assassiné, mais il sera mis à mort. Cela implique qu'il y aura une espèce de procès, qu'il y aura une espèce de procédure légale et qu'il sera mis à mort comme un condamné à mort. Et c'est effectivement ce qu'on verra se passer, d'abord avec un pseudo-procès au Sanhédrin, illégal puisque fait de nuit, et puis un nouveau procès le matin, déjà avec des gens déjà gagnés d'avance, et enfin, même pas un procès, mais un simulacre de une ombre de procès avec Pilate, où il y aura seulement quelques demandes à notre Seigneur, et où il s'en tiendra seulement aux accusations injustes des princes des prêtres. Et il sera mis à mort. Donc, on voit que tout a été réalisé avec minutie et que tout avait été annoncé par les prophètes avec minutie. Normalement, quand notre Seigneur rappelait cela aux foules d'une part et à ses apôtres en particulier, ils auraient dû se rappeler de ce qu'avaient dit les prophètes et croire que ce que notre Seigneur leur disait allait se réaliser. Mais nous dit l'Évangile, ils avaient comme un voile devant les yeux et ils ne comprenaient pas ce que notre Seigneur leur disait. Notre Seigneur leur annonçait d'ailleurs aussi que 3 jours après, il ressusciterait. Ils avaient un voile sur les yeux parce que les rabbins leur avaient tellement dit que le Messie serait quelqu'un de très glorieux, qu'il écraserait ses ennemis, qu'il les foulerait aux pieds. Mélangeant les prophéties qui concernent le deuxième avènement de notre Seigneur sur les nuées, pour le jugement dernier, avec celles qui concernent sa première venue de miséricorde, ici-bas. Et alors, il le voyait tellement glorieux et honoré, que quand il s'agissait du serviteur souffrant, qui est dépeint en Isaïe, ou par d'autres prophètes, ils n'arrivaient pas à comprendre que ça puisse s'appliquer au Messie. Et effectivement, non seulement en ce qui regarde la passion, mais toute la vie de notre Seigneur a été prédit. Je vous ai rappelé tout à l'heure les rois mages qui étaient annoncés. Mais au début de la vie publique, notre Seigneur est dans la synagogue de Capharnaüm, on l'invite à faire la lecture, il prend le rouleau, et c'est justement Isaïe. Voici qu'il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Et il continue la lecture d'Isaïe. Et on lui demande, à la fin de la lecture, son commentaire. Eh bien, son commentaire, il est très court. Aujourd'hui même, devant vos yeux, cette prophétie a été accomplie. Et il va s'asseoir. Parce que c'est le début de sa vie publique et qu'effectivement il va évangéliser les pauvres. Que les prophètes, eux, savaient très bien la passion de notre Seigneur, ils savaient qu'il serait glorieux et ils l'avaient annoncé, mais ils savaient d'abord que cette gloire, il la paierait par sa passion. On en a des preuves manifestes, d'abord par les prophéties elles-mêmes, mais également au moment où notre Seigneur, justement, là encore, pour préparer sa passion, on le verra normalement au milieu du carême, entraîne ses apôtres, du moins les 3 préférés, les 3 meilleurs, Pierre, Jacques et Jean, sur le mont Tabor, et ils se transfigurent devant eux, et viennent Moïse et Élie, l'un venant des limbes et l'autre venant de la région mystérieuse du ciel où il a été emporté. Et de quoi nous parle-t-il? Nous dit un des évangélistes, un des trois évangélistes qui rapporte cette scène, et il s'entretenait avec lui de ce qu'il allait devoir souffrir à Jérusalem. Donc il parlait déjà à l'avance de la passion et de ce qui allait s'y passer. Moïse était un grand prophète, il avait dit « Viendra après un grand prophète comme moi ». Donc s'il annonçait un prophète comme lui, c'est que lui-même était un grand prophète. Il n'a pas révélé tout ce qui concernait la passion parce que ça n'était pas l'heure. Et même s'il n'a pas eu beaucoup de détails à ce sujet, quand il a vu arriver dans les limbes après lui, au fur et à mesure, tous les prophètes, eh bien il a eu tous les détails qui sont annoncés dans les autres prophètes. De même, Élie était un très grand prophète, un grand dramaturge. Il n'a pas laissé d'écrit comme quoi concernant notre Seigneur directement, il n'est pas parmi les prophètes dont on a des textes écrits, mais il est par contre le plus grand et un des premiers prophètes quant à la parole et aux prédictions. Et là encore, il pouvait savoir beaucoup de choses déjà au moment où il était sur terre, et il a pu en savoir encore beaucoup là où il est, en attendant de revenir pour secourir les chrétiens au temps de l'Antéchrist, comme c'est annoncé dans l'Apocalypse et également dans les livres de l'Ecclésiastique. Eh bien, il nous reste à tirer des leçons, et comment le faire mieux qu'en se mettant à la place des apôtres? Ils n'entendaient parler du Messie que dans la gloire, dans la majesté, et notre Seigneur leur annonce sa passion. Ils n'arrivent pas à le croire, ils n'arrivent pas à comprendre surtout. Et c'est seulement après qu'ils se rendront compte que tout dans la vie de notre Seigneur était prédit. C'est pour ça que saint Matthieu continuellement dit « Il fit ceci afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, et il accomplit encore cela parce que le prophète l'avait annoncé. » Et voyez à un moment quand Saint-Pierre lui dit « Ah non Seigneur, nous ne vous laisserons pas prendre, et nous, comme notre Seigneur leur annonce une autre fois la passion, nous ne vous laisserons pas souffrir. Retire-toi de moi. » Est-ce que les prophéties ne doivent pas s'accomplir? Et continuellement, on voit, bien qu'on n'en ait que quelques échos dans les évangiles, que notre Seigneur fait appel à ces prophéties pour que, après, l'intelligence des apôtres, quand ils verront se réaliser la passion, qui était une source de scandale énorme, de voir celui qui avait fait tant de miracles, qui leur avait prouvé qu'il était le Fils de Dieu par ses miracles et ses prophéties, être réduit à rien comme il allait l'être, il y avait de quoi s'imaginer que c'était un imposteur, surtout quand on croyait que le Messie devait être très glorieux, et tout de suite. Eh bien, tirons-en la leçon pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est annoncé de ce qui va se passer à l'avance, ça a été tout annoncé dans l'Ancien Testament, ça s'est réalisé dans le Nouveau. Dans le Nouveau, qu'est-ce qui nous est annoncé? Ce qui va se passer d'une part à la fin du monde, et ce qui va se passer d'autre part pour chacun d'entre nous à la fin de sa vie, dans notre vie. Bien sûr, on ne l'a pas encore vu, mais vous croyez que les prophètes l'avaient vu, ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament? Et vous croyez qu'au moment où notre Seigneur leur annonce ça, les apôtres l'avaient déjà vu? Mais notre Seigneur leur annonçait déjà d'une façon précise. Ça s'est réalisé, et la réalisation de tout le Nouveau Testament annoncé par l'Ancien est une marque de la réalisation de tout ce qui est annoncé pour la fin du monde comme devant se réaliser, et de tout ce qui doit se passer dans notre vie. Et donc, il nous faut faire un acte de foi quand il nous est annoncé qu'un jour, notre âme va quitter notre corps. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera mort? Le corps sera mis au tombeau. Mais l'âme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va paraître devant notre Seigneur Jésus-Christ et annoncer d'une façon précise. Et qu'est-ce qu'il va nous demander? Compte de chacun de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, de notre vie. Et si nous sommes pris en état de péché mortel, eh bien c'est la damnation éternelle. C'est notre Seigneur qui l'annonce. Allez au feu éternel. Et si nous sommes en état de grâce, mais sans avoir bien réparé nos fautes, c'est le purgatoire, le terrible feu du purgatoire. Et là encore, nous avons eu aussi beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup de saints qui ont eu des visions d'âmes du purgatoire et qui ont vu les souffrances terribles que ça comprenait. Et après, eh bien, c'est la rentrée au ciel pour ceux qui sont morts en état de grâce et ont été purifiés de toutes leurs fautes. Voilà en ce qui nous concerne. De même pour la fin du monde, bien sûr, on n'a pas encore vu réaliser, mais c'est annoncé d'une façon claire et précise. Il y aura l'évangélisation de toutes les nations, la grande apostasie, l'antéchrist, un petit temps de répit, et c'est la fin en tant qu'instant dernier, la parousie, la manifestation de notre Seigneur sur les nuées, et le jugement dernier. Ça nous est annoncé d'une façon très précise. De même que la vie de notre Seigneur était dans l'Ancien Testament annoncée de façon très précise. Ça s'est réalisé dans le Nouveau, ça se réalisera aussi à la fin. Et si la Sainte Vierge a voulu nous le rappeler il n'y a pas longtemps, à la fin du siècle dernier, en nous disant l'Église aura une crise affreuse, elle sera éclipsée, on n'en verra plus la visibilité, au moins avec les yeux de chair, seulement avec les yeux de la foi. Et alors viendront Enoch et Élie pour soutenir cette foi, comme c'est annoncé aussi dans l'Apocalypse. Alors, toutes ces choses-là, nous devons le croire. Et nous devons ne pas nous scandaliser quand nous voyons se réaliser les débuts de ce qui était annoncé, quand nous voyons le corps mystique de notre Seigneur être lui aussi, d'une part, livré aux païens, ensuite moqué, la religion tournée en dérision, ensuite flagellé, réduit à rien, conspué, craché, tenu vraiment pour rien, et en quelque sorte mis à mort et au tombeau, réduit à presque rien. Mais nous savons aussi que le troisième jour, c'est la résurrection. Nous savons que notre Seigneur enverra ses deux témoins, que l'impie sera tué, l'antéchrist sera vaincu, qu'il y aura une période de répit, et après que notre Seigneur reviendra juger les vivants et les morts. Eh bien, demandons à notre Seigneur d'avoir foi dans ces annonces prophétiques, dans ces annonces qui ont été explicitées par les saints docteurs, qui ont été répétées et exprimées par des quantités de prédicateurs, et dont on a vu au fur et à mesure la réalisation, car dans l'Ancien Testament, il y avait aussi la résurrection qui était annoncée, il y avait aussi la Pentecôte qui était annoncée, il y avait aussi l'évangélisation du monde entier par les apôtres qui était annoncée, et bien tout ça, on en a vu la réalisation, et que ce soit pour nous le gage de ce que nous voyons déjà commencer à se réaliser, et que nous gardions la foi en disant avec saint Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Ô Sainte Église, à qui irions-nous? C'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. Nous voulons rester en votre sein et nous voulons y mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.